VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 14h à Brazzaville, au Congo. Bonsoir, bienvenue. On va commencer par le Burundi. Des médias français ont porté plainte auprès de la Cour suprême du Burundi, à Bujumbura donc, pour torture infligée à leur correspondant, Esdras Ndikumana. Joint par Eric Manirakiza à Paris, Esdras Ndikumana alerte le monde donc sur la situation des journalistes et des médias au Burundi. On l'écoute.
Ce qui arrive aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe d'une ampleur inouïe qui arrive, qui nous tombe dessus, qui tombe sur les médias burundais, sur les journalistes burundais, qui étaient une des catégories les plus appréciées dans le pays, qui était, vous savez bien que le Burundi était jusqu'à peu l'un des pays où il y avait le plus de liberté de la presse malgré les menaces qui existaient sur le secteur. Aujourd'hui, eh bien, tout ça est parti en lambeaux. Les radios ont été détruites. Les journalistes ont fui le pays. Ils ont fui parce qu'ils craignaient pour leur vie. Et il y a quelques jours, un collègue, Christophe, a été assassiné d'une manière atroce en compagnie de sa femme et de ses enfants. Et aujourd'hui, cela est allé trop loin. Aujourd'hui, il faut qu'on montre qu'il faut se battre. Nous devons nous battre. Les journalistes burundais doivent se battre pour leurs droits, pour la liberté de la presse. Et cela passe notamment le fait de porter plainte, le fait de crier haut et fort ce qui se passe. Surtout, nous sommes dans une période trouble où le Burundi s'achemine inexorablement vers la guerre. Eh bien, le Burundi a plus que jamais besoin de journalistes libres et indépendants qui rendent compte, qui disent réellement ce qui se passe, toutes ces atrocités qui se passent, ces gens qui sont arrêtés, assassinés, ces gens qui sont tués tous les jours.
Esdras Ndikumana, journaliste burundais. Au Congo-Brazzaville, les rassemblements sont interdits dans tout le pays. Les forces de sécurité quadrillent les quartiers sud de la capitale, bastion de l'opposition. Après l'interdiction du meeting sur le boulevard des armées, où l'opposition comptait manifester aujourd'hui contre le projet de référendum constitutionnel du 25 octobre qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Des jeunes ont brûlé des pneus ce matin dans les quartiers de Bakongo et de Makelele pour exprimer leur mécontentement, mais les contestants ont été dispersés par la police qui a tiré en l'air et fait usage de grenades lacrymogènes. Le calme est maintenant revenu dans la capitale, selon l'AFP. Par ailleurs, pas d'internet mobile ni de service SMS à Brazzaville. Les magasins, écoles et administrations sont également fermés, bien que la présidence ait publié un message indiquant que la journée n'était pas fériée et que tout le monde devait travailler normalement. Pourquoi ce refus catégorique du scrutin par les opposants alors que le gouvernement dit vouloir simplement laisser le peuple s'exprimer librement à la matière? Les explications de Trésor Nzila, il est le directeur de l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme. Il est joint à Brazzaville par Timothée Donagmaï.
C'est un projet anticonstitutionnel. Au regard de la Constitution du 20 janvier 2002, il n'est pas prévu un mécanisme pour changer la Constitution. Les initiateurs de cette Constitution étaient bien conscients qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il y a le mécanisme de la révision qui était prévu. On peut faire évoluer les institutions au travers de la révision. Mais amener le peuple congolais à vouloir changer la Constitution dans le seul but de permettre à M. Sassou de rester indéfiniment au pouvoir, nous disons non.
Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme. Selon des témoins à Pointe-Noire, capitale économique du pays, la situation serait identique à celle de la capitale. En République démocratique du Congo, controverse au Parlement au sujet de l'élection de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale en remplacement de ceux exclus de la majorité. La querelle porte aussi sur la question du porte-parole officiel de l'opposition tel que le prévoient les lois du pays. Plus de détails avec le député de l'opposition, Franck Diongo, au micro d'Eddy Sango.
Le bureau de l'Assemblée nationale contient 7 membres. Et la loi sur l'opposition politique exige à ce que, et même le règlement intérieur, exige à ce que la proportion des députés au niveau de l'Assemblée, la configuration politique, se retrouve au bureau. Le G7 qui a cliqué sur la majorité a amené à l'opposition 80 députés. Plus le nombre de députés que nous avions avant le G7, aujourd'hui, les rapports des forces sont tels que 225 députés de l'opposition et 275 députés de la majorité, ceux qui font 500 députés. Donc, les rapports des forces aujourd'hui exigent à ce que l'opposition ait 3 députés au bureau et la majorité 4. La majorité n'a pas obtempéré à cette exigence légale.
Franck Diongo, député de l'opposition et président du mouvement lumumbiste progressiste. Et toujours en RDC, Kinshasa a finalement levé l'interdiction du film « L'homme qui répare les femmes » consacré à l'œuvre du célèbre chirurgien congolais Denis Mukwege qui vient en aide aux femmes violées dans l'est du pays début septembre alors que le film devait être projeté à l'Institut français de Kinshasa. Le gouvernement congolais avait annoncé avoir interdit sa diffusion en soulignant que ce documentaire récompensé par plusieurs prix internationaux témoignait d'une volonté manifeste de nuire à l'armée congolaise et de salir son image, une interdiction qui avait suscité un tollé international. L'armée ougandaise a entamé son retrait du Soudan du Sud voisin dans le cadre de l'accord de paix conclu en août entre les deux parties en conflit depuis près de 2 ans, a annoncé aujourd'hui le gouvernement sud-soudanais. L'Ouganda avait déployé des troupes au Soudan du Sud en appui au régime du président Salva Kiir quelques jours après le début du conflit en décembre 2013 avec son ancien vice-président Riek Machar. Les forces ougandaises ont joué un rôle clé dans le conflit sud-soudanais en assurant notamment la protection de la capitale Juba et en offrant au régime la puissance de feu de ses hélicoptères dans le reste du pays.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Préparatif du prochain sommet sur le climat à Paris, plusieurs dirigeants internationaux se sont réunis hier pour lancer un appel en vue de fixer un prix au carbone. Parmi eux, François Hollande et Angela Merkel qui plaidaient pour cette initiative devant permettre de limiter les activités polluantes. Le point avec Dili Dico.
Il s'agit d'un appel dont l'objectif est de réorienter l'économie mondiale vers des énergies plus vertes et de limiter ainsi le réchauffement climatique. Dans cet appel publié à 6 semaines de la conférence COP21 de Paris, le président français a déclaré « Si nous voulons vraiment envoyer un signal fort au marché pour permettre aux entreprises de faire leurs choix dans les meilleures conditions économiques, la question des prix du carbone surgit inévitablement ». Cet appel n'indique toutefois pas la modalité sur laquelle il faudra s'appuyer pour fixer le prix du carbone. 2 options sont cependant suggérées. Un système de quotas d'émission du CO2, comme celui en vigueur en Europe, ou une taxe carbone. Le Fonds monétaire international, qui coordonne cette initiative avec la Banque mondiale, se déclare en faveur de la taxe carbone. Le FMI considère que cette option est la meilleure solution en dépit des réticences au sein du milieu des affaires. La Banque mondiale, quant à elle, a fait savoir qu'une 40aine de pays et 23 villes ont déjà mis en place un système de prix du carbone ou s'apprêtent à le faire d'ici peu.
Le gouvernement du président yéménite Abd Rabo Mansour Hadi se dit prêt à engager des pourparlers avec les rebelles sous l'égide de l'ONU, cela dans l'espoir d'une solution à 7 mois de guerre généralisée dans le pays. Les précisions, Lionel Gaïma.
Les Nations Unies n'ont pas encore confirmé l'acceptation formelle de pourparlers entre les partis yéménites, ni fixé la date ou le lieu de ces discussions. L'annonce faite lundi par le gouvernement yéménite a tout de même été saluée par l'Arabie Saoudite, qui dirige une coalition régionale appuyant le gouvernement du président Abdurabo Mansour Hadi contre les rebelles. « Oui, nous avons donné notre accord pour participer à des pourparlers proposés par l'ONU », a déclaré lundi à l'AFP le porte-parole de ce gouvernement, Rajed Badi, ajoutant que les discussions pourraient se tenir à Genève. Le conflit yéménite a fait plus de 5 000 morts et 25 000 blessés depuis fin mars. 2 tentatives de réunir les partis yéménites autour d'une table de négociation ont échoué. Le gouvernement du président Abdurabo Mansour Hadi exigeait de ses adversaires d'accepter la résolution onusienne 2216 qui prévoit le retrait des territoires conquis depuis l'an dernier et la restitution de l'état des armes saisies.
Des dizaines de milliers de Syriens ont été poussés à l'exode au sud d'Alep face à l'offensive des forces du régime appuyées par l'aviation russe. 370 personnes, en majorité des rebelles, ont été tuées en 3 semaines lors de ces raids. L'offensive de la Syrie, lancée le 17 octobre, en plus de la Russie, est soutenue au sol par des combattants iraniens du Hezbollah libanais. Selon l'AFP, l'objectif est de s'emparer des secteurs situés près de la route stratégique reliant Alep à la capitale Damas, bastion du régime. Et puis Justin Trudeau Trudeau, futur premier ministre du Canada après la victoire du Parti libéral lors des élections législatives de lundi. Les libéraux ont raflé 184 sièges sur les 338 que compte le Parlement canadien. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur notre page Facebook VOA Afrique et sur www.voafrique.com.
Sur VOA Afrique.